Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Comprendre l'épilepsie, c'est aider à vivre mieux, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture, pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons d'épilepsie. Petit Manu nous parlera de l'histoire de la découverte de cette maladie. Marie-Christine abordera la discrimination professionnelle quand on souffre d'épilepsie.
Bonjour, je vais vous raconter comment vous défendre en cas de discrimination professionnelle suite à votre maladie d'épilepsie et les recours que vous aurez.
Quelles sont les causes les plus fréquentes de l'épilepsie ? L'épilepsie peut-elle être guérie ? Pour répondre à cette question, nous aurons Hélène Godin, secrétaire générale d'Épilepsie France au téléphone. Comment prendre soin de soi au-delà des crises ? Ponari va nous donner quelques conseils.
Salut Didier, salut à tous. On en parle surtout à travers les crises, mais on en parle beaucoup moins de ce qu'il y a autour, avant, après. Du quotidien, du bien-être, de la prévention, du rôle des proches et du regard de la société. Dans cette chronique, je vous propose de prendre un temps pour comprendre autrement, pour apaiser, pour inclure. Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement soigner un symptôme, c'est aussi prendre soin de l'humain dans sa globalité. A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous fera découvrir ces chanteurs épileptiques qui ont trouvé refuge dans la chanson.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien c'est difficile pour les artistes de parler de l'épilepsie car c'est un sujet qui est encore assez tabou. Mais heureusement, certains artistes ont trouvé refuge dans la musique, lesquels, eh bien, je vous en ai sélectionné quelques-uns que vous allez découvrir dans mon quiz tout à l'heure.
Enfin, dans la chronique pop culture, retour sur un dossier épileptique, les Pokémon avec Eric.
Et l'émission est réalisée par Didier, bien sûr,
Didier,
comme toujours.
Didier.
On estime qu'environ 50 millions de personnes vivent avec une épilepsie dans le monde, soit 0,5 à 1% de la population mondiale, ce qui en fait l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes, globalement. Chaque année, environ 5 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde. Pendant des siècles, cette maladie resta un mystère médical. Petit Manu revient sur l'histoire de cette maladie et comment un médecin britannique a révolutionné le traitement en 1857.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama.
Donald Trump. Hillary Clinton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake.
Lady Dada.
Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les cravottes. Non.
Tous les quoi?
L'épilepsie, ça représente quoi? Pendant longtemps, l'épilepsie n'était pas une maladie, c'était un mystère. Dans l'Antiquité, quand une personne tombait soudainement au sol ou soudée par de convulsions, on parlait de maladie sacrée. En Mésothérapie, en Égypte, puis en Grèce, on pensait que les dieux ou les démons entraient dans le corps. Le mot lui-même veut dire grec, qui signifie saisir, surprendre. Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, ose écrire que l'épilepsie n'est rien que divin, que son origine est dans le cerveau, mais au Moyen-Âge, la peur revient en force. L'épilepsie est associée à la possession et au péché, parfois à la sorcellerie. On invoque des saints, notamment Saint-Valentin ou Saint-Jean, plutôt que des médecins. Nous sommes en 1857 à Londres. Le docteur Charles Cluck, médecin personnel de la reine Victoria, observe que quelque chose d'étonnant. Il utilise du bromure de potassium pour calmer les crises d'hystérie et découvre que par hasard que ce produit arrête aussitôt les crises d'épilepsie. Résultat, 80% d'entre eux voient que leur crise diminue drastiquement. C'est la première fois dans l'humanité qu'un médicament fonctionne vraiment contre l'épilepsie. En 1873, le neurologue britannique John Hughling Jackson comprend que les crises sont liées à des décharges électriques anormales dans le cerveau. L'épilepsie devient une maladie neurologique. En 1929, l'électrocéphalogramme permet pour la première fois de voir l'activité électrique au cerveau. Les premiers traitements efficaces apparaissent. Voilà tout ce qu'on doit connaître de A à Z sur le thème de cette maladie, l'épilepsie.
Merci petit Manu. Et l'épilepsie est responsable d'environ 500 décès par an en France, selon certaines estimations. Longtemps, les personnes épileptiques ont été exclues de l'école, du travail, parfois du mariage. Jusqu'aux années 1970, certaines professions leur sont interdites. Actuellement, selon les sondages, entre 60 et 70% des personnes épileptiques rapportent avoir été discriminées à l'embauche ou au maintien dans l'emploi. Pourquoi ? La peur irrationnelle des crises, les idées reçues sur la sécurité. D'ailleurs, d'après Fondation Épilepsie, 72% des Français disent être prêts à discriminer une personne épileptique, par exemple, dans des situations sociales ou professionnelles. Comment se défendre ? Quels sont les aménagements faits dans les entreprises pour ces salariés ? Réponse avec Marie-Christine. Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables ? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là !
L'expérience de la vie, la maturité.
Alors, en France, une personne épileptique n'a aucune obligation légale de déclarer son état de santé lors de l'embauche ou de l'entretien. Première précaution. L'employeur ne peut poser aucune question sur l'état de santé du candidat, car cela constitue une discrimination prohibée par le Code du travail. Seule la visite médicale d'embauche par le médecin du travail évalue l'aptitude au poste. Ce médecin est tenu au secret médical et ne transmet pas d'informations à l'employeur sans consentement. Il est recommandé de ne pas en parler spontanément pour éviter les préjugés. C'est une maladie, effectivement, qui fait un peu peur. Sauf si des aménagements nécessaires ou si les crises risquent d'impacter la sécurité au travail. Il faut savoir qu'il y a des métiers interdits. Le médecin du travail peut proposer des adaptations au poste sans révéler la pathologie précise. À l'embauche, l'employeur ne peut pas vous écarter juste parce que vous avez une RQTH, c'est-à-dire une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si c'est prouvé, l'employeur risque jusqu'à 45 000 euros d'amende. De plus, en France, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique aux employeurs privés et publics comptant au moins 20 salariés. Il doit y avoir au moins 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif total. Ces employeurs déclarent annuellement leur situation via la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et versent une contribution financière à l'URSSAF ou la MSA si le quota n'est pas atteint.
D'accord.
Pour les aménagements, l'entreprise peut proposer des horaires adaptés, fixes de jour pour éviter la fatigue ou flexibles pour les traitements. Un poste sécurisé, une chaise stable, un sol anti-chute, des machines avec arrêt d'urgence. Le médecin du travail valide et le financement tombe. Résultat, des milliers de salariés aujourd'hui sont stabilisés et bossent sereinement dans les entreprises. L'épilepsie ou une maladie rare, c'est pas une fatalité professionnelle. Avec les bons aménagements, c'est une force. Ensemble, brisons les tabous.
Oui, d'ailleurs, on parlera de maladie rare dans quelques émissions. Eh ben, merci Marie-Christine. L'épilepsie est l'une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes en France. Environ 1% de la population française est atteinte d'épilepsie, soit 650 000 à 700 000 personnes. La prévalence augmente fortement avec l'âge, surtout après 65-70 ans. Quelles sont les causes les plus fréquentes de l'épilepsie ? L'épilepsie peut-elle être guérie ? Pour répondre à ces questions, nous avons Hélène Godin, secrétaire générale d'Épilepsie France au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Comment Épilepsie France accompagne les patients et leurs familles ?
Alors, on fait, enfin, nous sommes une association de patients et de proches et d'aidants. Nous essayons de les accompagner au mieux avec une écoute bienveillante. Ils nous appellent, on les écoute, on les oriente, on les conseille. Et puis, il faut dire que le siège national est à Paris, mais que nous nous déployons par représentation départementale. Nous avons des bénévoles, je crois qu'en tout, on doit être à peu près 165, ce qui est peu, hein, finalement, sur environ 88 antennes départementales. On ne couvre pas encore toute la France, mais on est même jusqu'en Polynésie et sur l'île de la Réunion.
Ah oui.
Et puis, ben, justement, ces bénévoles sont là pour accompagner au mieux les patients et les familles qui appellent. Parfois, c'est de simples demandes d'information, des conseils ou des renseignements, parfois sur le permis de conduire, sur pas mal de choses. Mais parfois, ils ont vraiment envie de rencontrer d'autres personnes qui sont dans leur cas et qui vivent avec une épilepsie.
D'accord. Il y a différentes sortes d'épilepsie.
Ah oui, je crois que on en dénombre à peu près 50 formes.
Ah oui, quand même.
Et du coup, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, souvent, ce qu'on retient de l'épilepsie, c'est la crise généralisée, tonico-clonique, avec convulsion. Alors oui, c'est vrai, cette manifestation-là existe, même si ça reste la plus spectaculaire, c'est quand même la moins fréquente.
Ah oui.
Après, bien sûr, les plus discrètes sont les absences, les crises partielles complexes. Là, ça se corse un petit peu, je rentre dans les détails, mais c'est vrai que ça, ce sont les plus
spectaculaires,
les plus fréquentes, voilà.
Ah,
voilà.
Les plus fréquentes, d'accord.
Les plus fréquentes.
Et les plus visibles, du coup.
Et les plus visibles, alors non, je pense que c'est la crise tonico-clonique avec convulsion qui est la plus visible. Hein.
Oui, je parlais de
celle-là. Les crises... Les absences et les crises partielles restent quand même parfois assez discrètes, bien que c'est vrai que quand la personne commence à avoir des automatismes ou des crises de désorientation, ou bien sent des odeurs que personne ne sent, ou vous voyez, il peut y avoir tellement de manifestations qui font que on va dire, bah tiens, ça c'est bizarre, ils se comportent vraiment bizarrement. Parfois, certains vont même penser qu'il s'agit d'un AVC suivant les gestes qu'il fait, vous voyez, mais on ne pense pas à d'épilepsie. C'est ça qui est déroutant, parce que les personnes qui ne sont pas sensibilisées ne vont pas penser justement que ça peut être de l'épilepsie. Et c'est ce qui fait que, y compris dans le corps médical, hein, bien souvent, on passe à côté de... Bon, il y a des erreurs de diagnostic, hein, c'est clair. Ouais. Ouais. On assimile ça parfois, des crises de spasmophilie, des crises d'angoisse... Vous voyez, et c'est ce qui rend les choses vraiment très, très compliquées.
Oui, parce que c'est très difficile, alors, de reconnaître certaines formes d'épilepsie pour les patients et pour la famille.
Et effectivement, alors... Surtout la première fois. Après, quand on est sensibilisé, qu'on est habitué, bien sûr, il n'y a aucun souci. La famille et les amis réagissent. Mais comme c'est la première fois, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai des adhérents qui, en fait, préfèrent taire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils voient de leur propre épilepsie parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Vous voyez, si ce sont des phénomènes d'automatisme, en fait, si la personne aussi ressent des choses ou voit des choses hein, que les autres ne voient pas, ils vont se dire au bout d'un moment, non mais attends, moi j'ai vu ça, j'ai entendu ça, et eux ne voient pas ou n'entendent pas, c'est quand même bizarre. Alors ça vient du fait qu'il peut y avoir une petite lésion qui est sur la zone qui commande soit l'audition, soit la vue, etc. Donc selon la zone, ça va entraîner des phénomènes en relation avec la zone touchée.
Ah oui, moi je ne savais pas qu'il y avait des formes d'épilepsie où des personnes voyaient des choses qui n'existaient pas.
Mais vous n'êtes pas le seul, et c'est pour ça que... Alors, rien n'est vérifié à 100%, mais il semblerait que Jeanne d'Arc était épileptique, d'après les scientifiques qui ont fait quelques recherches, et du coup c'est pour ça qu'on disait qu'elle entendait des voix, mais en réalité si elle était épileptique, les voix qu'elle entendait c'était certainement qu'elle avait une lésion sur la zone responsable de ces phénomènes d'hallucination auditive.
D'accord. Alors comment chez les professionnels on fait un diagnostic d'épilepsie ?
Alors ça, c'est très simple. La première des choses à faire, c'est bien sûr la consultation, l'interrogatoire, entre guillemets, et puis un EEG, c'est-à-dire l'électroencéphalogramme. Alors, souvent, on voit des traces. Même quand la crise est terminée, on voit qu'il y a un tracé qui n'est pas un tracé dit normal, voyez. Donc là, c'est la première chose. Et après, il y a l'IRM et puis tout un tas d'autres examens qui sont faits souvent sur des plateformes techniques performantes qui ne sont pas faites dans un cabinet médical, cabinet de neurologie ordinaire. Il faut vraiment aller sur une plateforme ou dans un hôpital pour avoir tous ces examens-là. D'accord. Mais un neurologue qui fait un EEG va être capable de lire cet EEG et de dire, tiens, là, il y a quelque chose, c'est plutôt une épilepsie généralisée, ou là, c'est plutôt une épilepsie type temporale gauche ou temporale droite. Mais c'est le premier examen à faire, c'est ça, c'est l'EEG.
Et les causes les plus fréquentes de l'épilepsie, c'est génétique uniquement ?
Alors, non, la génétique a un très faible pourcentage. Je dirais que les causes les plus fréquentes sont des anomalies, souvent après un traumatisme crânien, une malformation cérébrale, une lésion, on appelle ça des dysplasies souvent, les suites d'un AVC. Ça peut être une infection, une encéphalite, une méningite, qui entraîne des cicatrices. Hein. Et puis, oui, effectivement, les causes génétiques. Alors, l'hérédité, très peu, mais causes génétiques. Puis parfois, malheureusement, on ne trouve pas. Alors on appelle ça l'épilepsie idiopathique, peu importe. En tout cas, parfois, c'est très difficile à déceler. Et donc, ça nécessite plusieurs journées d'hospitalisation pour essayer de creuser un petit peu et de voir s'il n'y a pas d'autres causes à ça.
Et il y a des facteurs déclencheurs connus que les patients peuvent éviter, un peu comme les migraines ?
Alors oui, et vous le dites très bien, en fait, ce sont des éléments déclencheurs, ça n'est pas la cause. Hein. Les éléments déclencheurs, ça va être souvent la fatigue, une dette de sommeil. Si la personne sort en boîte, qu'il n'a pas dormi pendant 24 heures, que en plus il ajoute à cela des substances pas très sympathiques avec de l'alcool, etc. Alors là, on a le package complet pour déclencher une belle crise derrière quand on a un terrain propice à ça. Après, nous, évidemment, on suggère d'avoir une vie la plus normale possible. Bien sûr qu'on ne va pas interdire, dans nos actions de prévention, on ne va pas leur dire surtout restez chez vous, ne bougez pas, ne buvez pas, ne fumez pas. Non, il faut essayer d'avoir une vie sociale la plus normale possible. Mais disons que, essayer de profiter de la vie sans pour autant s'enivrer tous les jours. Et voilà, mais je dirais comme n'importe quelle personne. Après, c'est vrai que ça, ce sont des facteurs déclenchants. Alors, comme le stress, hein, le stress au travail peut être déclencheur d'une crise. Enfin, il y a des tas de raisons à déclencher une crise. Et il faut savoir aussi que, d'après les statistiques, hein, qui sont c'est les sources vérifiées, hein, scientifiques, on sait que 110 personnes par jour peuvent présenter une première crise. Alors, pas forcément des crises qui vont être diagnostiqué comme une épilepsie récurrente, mais plutôt une crise isolée, c'est-à-dire que si vous remplissez toutes les conditions que je vous ai énoncées tout à l'heure, l'alcool, le stress, la dette de sommeil, etc., si vous avez un seuil épileptogène un peu bas, vous êtes susceptible effectivement de présenter une crise isolée et provoquée. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez être diagnostiqué épileptique.
Et quels traitements aujourd'hui sont efficaces et ils soignent à combien de pourcentage à peu près les épileptiques ?
Ça, mon Dieu, c'est très compliqué, c'est très lourd parce que on a maintenant, aujourd'hui, alors je crois qu'il y a un petit peu plus de 50 ans, il devait y avoir 2 ou 3 molécules. Hein. Aujourd'hui, on a, je crois, un échantillon de 30 molécules différentes qui sont bien plus ciblées. C'est-à-dire que cette molécule et cette molécule vont plutôt être pour les absences. Celles-là vont plutôt agir sur tel et tel syndrome. Celles-ci vont être plus pour les crises généralisées tonico-cloniques, Donc, on sait maintenant quelles molécules vont pouvoir enrayer les crises. Pour autant, on a toujours autant de personnes qui résistent au traitement, c'est-à-dire à peu près 30% de personnes qui sont épileptiques et qui, malgré tous les essais des traitements n'arrivent pas à se stabiliser. C'est pour eux que c'est le plus difficile. Voilà, c'est cette espèce de, on le dit souvent, cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête et qui est là et qui est présente et qui se dit « Mais mon Dieu, je sais que je vais faire une crise dans les 15 jours qui viennent » ou « Je sais que je vais faire une crise dans 48 heures parce que c'est réglé comme ça, ils en font beaucoup ». Mais ne pas pouvoir agir, c'est très très compliqué.
Et il existe des cas où l'épilepsie peut disparaître ou être guérie ?
Alors, Maintenant, on sait que quand une épilepsie débute, il y a peu de chances pour qu'elle disparaisse totalement. Elle peut être stabilisée, le patient peut être libre de crise, mais souvent, on a l'habitude de dire l'épilepsie sommeille. Alors, elle peut ne pas se réveiller jusqu'à la fin de la vie, mais quand même, quand on a un terrain propice à ça, il faut faire très attention. Alors, parfois, effectivement, ça disparaît souvent à l'âge adulte, quand l'épilepsie a commencé jeune. Mais c'est quand même assez rare. Et ce qui vraiment guérit les patients, enfin une partie des patients, c'est la chirurgie d'épilepsie. Alors, on a des techniques nouvelles maintenant, grâce aux technologies nouvelles, qui permettent d'avoir des chirurgies un peu moins invasives avec des dispositifs médicaux tels le simulateur du nerf vague, par exemple. Puis il y a d'autres techniques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, ce sont les grands centres d'épilepsie sévère qui pourront orienter les patients. Mais en effet, c'est quand même très, très compliqué à stabiliser pour certains. Donc, on appelle ça la pharmacorésistance. Et bien souvent, ces patients sont orientés vers des plateformes de plateaux techniques qui vont proposer effectivement de faire un bilan, un premier bilan pour voir s'il y a opérabilité. Ils ne le sont pas tous. Il faut vraiment que l'épilepsie, d'abord, ne soit pas généralisée. Il faut qu'il y ait un début de crise très localisée, droite, gauche, etc. Mais c'est vrai que c'est d'abord un bilan qui demande de nombreux examens et souvent ils n'ont pas la réponse avant 18 mois à 2 ans et après ils prennent la décision, soit ils opèrent, soit ils n'opèrent pas, soit dans la balance bénéfice-risque, il vaut mieux s'abstenir ou au contraire on va quand même opérer même s'il y a des petits effets secondaires parce que on sait que le patient va être soit libre de crise, soit il en fera beaucoup moins que ce qu'il fait là aujourd'hui. Voilà.
D'accord, mais il y a quand même eu des cas où, en fait, les épileptiques n'ont jamais eu de crise de toute leur vie.
Des patients épileptiques qui n'ont jamais fait de crise, moi je ne connais pas. S'ils sont épileptiques, ils ont des crises.
Ouais, forcément, c'est ça se déclenche à un moment ou à un autre.
Ben, à un moment donné, s'ils ont été diagnostiqués épileptiques, c'est parce qu'il y a eu une crise. Quelle qu'elle soit, on a vu. Donc, le traitement est donné. Et s'il n'y en a plus, c'est que le traitement fonctionne. Alors après, au médecin de décider si on continue le traitement à vie, parce que c'est un traitement qui fonctionne, ou bien si dans 2, 3 ans, 5 ans, on pourra essayer de diminuer le traitement, voire l'arrêter, pour voir si effectivement les choses se passent bien.
Merci Hélène Godin, secrétaire générale d'Épilepsie France.
Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Les crises impressionnent et inquiètent. C'est généralement par elles que l'on évoque l'épilepsie, on en a parlé. Il y a certaines formes rares d'épilepsie. Moi, je ne savais pas du tout. On pense que du coup, la personne n'est pas du tout malade. Et non, ça rentre dans l'épilepsie. Mais l'épilepsie, c'est aussi un quotidien, une manière de vivre, de s'adapter, de prendre soin de soi autrement. Ponari, dans sa chronique Bien-être, va aborder une approche plus globale et plus humaine, prendre soin de soi au-delà des crises. Et retrouver la chronique Bien-être.
De Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit. On est rempli d'émotions. Les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotions.
La chronique Bien-être de Ponari.
Quand on parle d'épilepsie, on pense souvent immédiatement aux crises, à leur violence parfois, à leur caractère impressionnant, à la peur qu'elles suscitent. Pourtant, l'épilepsie ne se résume pas à ces moments visibles. Elle s'inscrit dans un quotidien, dans un rythme de vie, dans une relation intime avec son corps et avec les autres. Vivre avec l'épilepsie, c'est apprendre à se connaître autrement, à écouter des signaux parfois discrets, à respecter une énergie qui peut fluctuer et surtout à prendre soin de soi au-delà du symptôme. Bien sûr, le suivi médical est essentiel et incontournable, mais la prévention passe aussi par l'hygiène de vie, par l'environnement, par la qualité du soutien que l'on reçoit. Le bien-être global joue un rôle fondamental dans l'équilibre de la personne épileptique. Le stress, par exemple, est souvent identifié comme un facteur aggravant. Il ne crée pas l'épilepsie, mais il peut fragiliser un système nerveux déjà sensible. Prévenir, c'est donc apprendre à réduire les sources de tension quand c'est possible et à créer des espaces de calme dans le quotidien. La respiration, la relaxation, les pauses régulières, Le fait de ralentir sans culpabilité sont autant de gestes de prévention douce. Ils permettent au corps de retrouver un sentiment de sécurité. Le sommeil est un autre pilier majeur, un rythme régulier des rituels apaisants, un respect des temps de repos sont de véritables alliés. Prévenir ici, c'est accepter que le repos ne soit pas un luxe, mais une nécessité. Prendre soin de soi, c'est aussi reconnaître sa fatigue, l'écouter, l'accueillir, adapter son rythme plutôt que de lutter contre lui. Cette écoute est une forme de protection. Mais l'épilepsie ne concerne jamais une seule personne. Elle touche aussi les proches, les aidants, la famille, les amis. Eux aussi peuvent se sentir démunis, inquiets, parfois maladroits. Les inclure, les informer, leur apprendre les bons gestes, c'est aussi faire de la prévention. Un entourage rassuré et bien informé crée un climat de sécurité émotionnelle. Et cette sécurité est précieuse. Il est également essentiel de parler d'inclusion. L'épilepsie reste une maladie encore entourée de stigmatisation, d'idées reçues. Trop souvent, la peur vient de l'ignorance. Donc, informer, expliquer, normaliser permet de changer les regards. Une personne épileptique n'est pas définie par sa maladie. Elle est avant tout une personne avec des compétences, des projets, une sensibilité, une place dans la société. L'inclusion commence par le respect, l'écoute et l'adaptation sans infantilisation ni mise à l'écart. Enfin, certaines pratiques de bien-être peuvent accompagner le quotidien. Relaxation, sophrologie, méditation douce, activités corporelles adaptées, elles ne remplacent jamais un traitement médical évidemment, mais elles soutiennent l'équilibre émotionnel et la relation au corps. Prendre soin de soi au-delà des crises, c'est comprendre que la santé ne se limite pas à l'absence de symptômes, c'est un équilibre vivant, fait d'attention, de prévention, de lien et de bienveillance. Et si prendre soin de soi, c'était aussi prendre soin du lien, du regard et de la place que l'on offre à chacun dans la société.
Merci Ponari. Et vous autour de la table, est-ce que vous connaissez des personnes atteintes d'épilepsie?
Moi j'avais mon frère.
Oui.
Ça a été une galère pour lui, pour sa vie. Bon, il est décédé maintenant, mais ça a été une galère. Il a été épileptique hein, à l'âge de 7 ans, et à l'époque, il n'y avait pas énormément de traitement. Ma mère allait à Salpêtrière régulièrement, et je sais que dans la famille, ça a été très difficile pour lui, et puis pour mes parents, quoi. C'était une épreuve, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de traitement, et que c'était lourd.
Et ça a été reconnu comme l'épilepsie dès le début?
Bah oui, parce qu'il a fait sa première crise à 7 ans, une grosse, grosse crise, en se tapant par terre, parce que là, on n'explique pas trop ce que c'est, mais oui. Bon, des convulsions, etc. Et il en a fait toute sa vie.
Ouais, voilà. Toute sa vie.
Et de toute façon, toute sa vie, il était sous traitement. Mais bon, il a pu travailler normalement, il a passé ses deux bacs, son bac français, après il a passé un bac économique, enfin, et puis il a travaillé toute sa vie. Hein. Ça ne l'a pas empêché de vivre.
Et mais, Kevin
ouais. Mais les traitements fait que ben voilà, il est plus là. Enfin, ouais. pas dû forcément qu'à ça, mais quand même.
Ouais. Et Kevin, t'as connu des gens épileptiques?
Bah non, pas à ma connaissance, en tout cas pas autour de moi.
Moi, c'est arrivé en soirée où quelqu'un que je connaissais, est tombé, a fait une crise. C'est vrai que c'était impressionnant. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, c'est rien, je suis épileptique. D'accord, mais ça va, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne savait pas quoi faire en fait. Et il disait, non, c'est rien, j'ai fait ma crise, tout va bien. D'accord, bon, ça nous a un peu impressionnés au début parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment réagir. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Allez, avant d'ouvrir notre page culture pop avec Eric et musical avec Kevin, je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin. Never meant to cause you any pain. I'm the one that wants to see you laughing. We'll be right back.
want to be some kind of friend.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale, commençons par de la musique. Pour certains artistes, la musique n'est pas seulement une passion ou un métier, c'est un refuge, un équilibre, parfois même une manière de vivre avec la maladie. C'est le cas de Prince, qui souffrait d'épilepsie dès l'enfance, et qui a longtemps expliqué que la musique l'aidait à canaliser ses émotions et à se sentir en sécurité. On peut aussi citer Lil Wayne, qui a parlé publiquement de son épilepsie et des crises qu'il a traversées au fil de sa carrière. Qui sont les autres artistes qui souffrent d'épilepsie et qui ont trouvé refuge dans la musique? La réponse dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais sautera.
Eh bien, heureusement qu'il y a la musique pour permettre aux artistes d'oublier un peu qu'ils sont ailés. Épileptiques, car certains le sont réellement ou l'étaient, car il y en a qui sont malheureusement décédés. C'est le cas de cet artiste qui nous a malheureusement quittés, ça fera 10 ans le 21 avril prochain. De qui il s'agit à votre avis?
Et vous allez peut-être entendre dans les réponses une voix que vous ne connaissez pas, c'est la maman de Davy qui est là avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, tu peux jouer au quiz de Kevin, essayer de deviner les titres parce que... Elle a quand même une âme musicale, sa fille est dans la musique.
Bah oui.
Donc peut-être que...
Peut-être.
Voilà, tu vas découvrir les titres mieux que nous.
Alors, j'ai déjà quelques indices. Il avait exactement le même âge que Michael Jackson. Enfin, ils étaient nés la même année. Et je l'ai cité dans le lancement.
Je connais et j'adore, mais je ne me souviens plus.
Oui, Christine.
Prince.
Voilà, Prince. Qui s'appelle réellement Prince, d'ailleurs. Prince Rogers Nelson. Alors, Prince, il a souffert d'épilepsie durant son enfance. Il a déjà raconté avoir fait plusieurs crises, parfois sévères, qui l'isolaient socialement et nourrissaient chez lui un sentiment de peur et d'incompréhension. Et à son époque, la maladie était très peu expliquée, elle était encore stigmatisée. C'est ce qui a renforcé son repli sur lui-même. Et pour Prince, la musique, c'est devenu très tôt un refuge émotionnel. Il a déjà expliqué que le fait de jouer, composer et chanter lui permettait de canaliser ses émotions, de retrouver un sentiment de contrôle et de sécurité. Et chez lui, la musique, c'était pas seulement une vocation, c'était un moyen de survie psychologique. Est-ce que vous l'avez déjà écouté? Vous connaissiez des chansons de lui?
De Prince, oui.
Mmh, oui. Bien sûr.
T'as des titres en tête,
Nadine et Fan.
Fan, oui. Et ouais. Par contre, j'aurais jamais pensé qu'il était épileptique.
Et si c'était vraiment le cas? Mais est-ce que tu te souviens du jour où t'as appris son décès? Parce qu'il est mort en avril 2016.
Ah bon, seulement?
Bah oui.
Seulement il y a 10 ans?
Bah c'est ça. T'as l'impression qu'il était mort il y a plus longtemps?
Il est mort à 50 ans, c'est ça?
Non, il est mort à 57 ans.
À 57 ans.
Ah, j'étais surtout surprise par son âge, effectivement. Je pensais pas du tout. Et je pense qu'il est mort à cause de l'épilepsie.
Entre autres, oui, voilà. Malheureusement. En revanche, lui, ce rappeur est encore vivant. C'est un Américain de qui il s'agit, à votre avis? For French, my heart and this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss, and then I look up at the stars and they all made a wish, I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Alors c'est un autre artiste que j'avais cité dans le lancement aussi.
Attends, je triche, Lil Wayne.
Voilà, Lil Wayne, avec un chanteur français qui est pour le coup incontournable. Est-ce que vous reconnaissez sa voix?
Un chanteur français? Ah, Maître Gims.
Oui, Gims, voilà. C'est Lil Wayne avec Gims et French Montana sur la chanson Corazon. Donc, bon, on va écouter le refrain, tiens.
Là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie.
Alors Lil Wayne, lui, c'est, je l'ai dit, un rappeur, auteur-compositeur, producteur et entrepreneur américain. Il vit avec l'épilepsie depuis son enfance. Il a révélé publiquement avoir fait de nombreuses crises au fil des années. Et certaines lui ont même valu d'être hospitalisé en urgence. Et il a longtemps gardé la maladie secrète avant de décider d'en parler publiquement. Et pour Lil Wayne, le rap et l'écriture ont été un exutoire mental. Il décrit le studio comme un espace où il se sent concentré, apaisé, maître de son rythme. Et la musique lui permet de transformer l'angoisse, la fragilité en énergie créative et de garder une structure dans une vie souvent chaotique. On passe maintenant à une chanteuse britannique qui s'est fait connaître dans un concours qui est l'équivalent britannique de la France, un incroyable talent. De qui il s'agit?
J'ai tout de suite trouvé, mais bon.
Alors, on ne l'entend pas beaucoup ces derniers temps, mais en tout cas, elle s'est fait connaître dans l'émission Britain's Got Talent en 2009.
Elle est devenue blonde.
Alors, c'est une certaine Suzanne.
Ah.
Suzanne comment?
Bébé.
Oui.
Suzanne Boyle.
Boyle ou... Oui.
Non, Suzanne...
Oui, on l'entend plus.
Non, on l'entend plus, hélas, mais elle est encore vivante.
Elle chantait bien.
Mais oui. Ben, elle avait... D'ailleurs, cette chanson, elle s'intitule I Dreamed a Dream, sortie en 2009, qui est l'un de ses plus grands succès. Hein. L'album, il s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires.
Ah oui, mais elle a une voix extraordinaire. Puis elle, c'était pas une chanteuse professionnelle, c'était une femme qui avait chanté... je crois toute seule, dans son coin, quoi.
Tout à fait. Et Suzanne Boyle a souffert d'épilepsie durant son enfance et son adolescence. Elle a connu des crises fréquentes associées à un fort sentiment de différence et à des difficultés sociales. Et pour elle, le chant, ça a été très tôt une thérapie émotionnelle. Chanter, ça l'a aidé à se calmer, à s'exprimer et à reprendre confiance. Ça l'a aidé dans son refuge, c'est resté son refuge tout au long de sa vie, bien avant sa célébrité tardive. Je vous propose qu'on écoute cette chanson.
Mother of dreams that cannot be.
quelle voix, en tout cas, il y a un petit côté Céline Dion. Hein.
Une très très belle voix.
Et oui. Alors, on termine maintenant avec un chanteur canado-américain. De qui il s'agit, à votre avis?
Nadine, elle sait pas.
Je connais, mais les noms.
Il y a un chanteur qui est né en 1945.
Kevin, si tu m'aimes, et là ça colle pas au thème, la chanteuse Davy. Je pense que Nadine, elle va...
Je ne connais que Davy. Ah bon,
Cette chanson s'intitule Heart of Gold. C'est le chanteur Neil Young. Ça vous dit quelque chose, Neil Young?
De nom.
D'accord. Alors pour le coup, Davy, elle a pas fait, à ma connaissance, elle a pas fait une chanson autour de l'épilepsie ici.
Non, pas encore. Pourquoi pas?
Bah oui,
on lui a déjà donné à Noël des idées pour faire une chanson de Noël.
Oui.
Déjà?
Alors, elle en a déjà chanté, mais c'était des reprises de Noël. Anastasia, notamment, oui.
Peut-être qu'elle va en faire une pour Noël prochain.
Peut-être.
Mais ouais. Oui. Alors, pour revenir à Neil Young, il a souffert d'épilepsie dans son enfance. Il a aussi eu des problèmes de santé précoces. Il a déjà évoqué cette période comme étant marquée par la fragilité, la peur et une grande sensibilité aux stimuli, notamment à la lumière. Et très jeune, il s'est réfugié dans la musique comme espace d'expression et de liberté. Le fait de composer et de jouer, ça lui permettait de se recentrer, de s'exprimer sans contrainte et de transformer sa vulnérabilité en force artistique. Et pour lui, la musique, ça a été une échappatoire, un langage pour exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette chanson de Neil Young.
Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.
Eh bien, merci à tous.
Eh ben merci Kevin.
Merci Kevin.
On va écouter un titre en entier.
Ben je vais laisser Nadine choisir lequel des titres elle aimerait écouter.
Suzanne Boyle.
Une jeune femme, hein, même si elle aura bientôt 65
ouais,
ans.
Ouais, elle est pas jeune.
Hein. Ça reste une jeune femme.
Oui, allez, ça reste jeune. Tu verras quand tu auras 65 ans, ouais. Si tu diras que c'est pas jeune.
Eh bien Suzanne Boyle, I Dreamed a Dream.
Life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with their voices soft as thunder. They tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. Still I dream he come to me, that we would live together.
Susan Boyle, I dreamed a dream.
C'est I dream a dream, c'est ça. I dreamed a dream. C'est dur à dire, hein. I dreamed a dream.
Je rêve pour rêver.
I dreamed a dream.
On termine cette émission par de la culture pop. L'épilepsie est très largement abordée dans la pop culture. Pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, le téléfilm Le droit de vivre de Ferdinand Fairfax, produit par Disney, datant de 1986, raconte la maladie de l'épilepsie de façon tout à fait réaliste. On y suit Kaylin Taylor, un jeune garçon épileptique de 16 ans, qui décide de subir une dangereuse opération du cerveau. Mais ses parents, jugeant l'expérience trop risquée pour la vie de leur enfant, refusent de signer l'autorisation médicale. Le jeune homme les attaque en justice pour que la science puisse enfin le soulager de ses angoisses quotidiennes et de ses souffrances régulières. Si dans certains cas l'épilepsie est racontée, dans l'autre elle est stimulée. Par exemple, dans le film d'animation Les Indestructibles 2 de Brad Bird, qui comporte des flashs rapides et répétés, peuvent provoquer des crises d'épilepsie. D'ailleurs, ces effets stroboscopiques ont fait l'objet d'annonces alertes avant le film afin de prévenir les risques de crise d'épilepsie. Tout cela fait penser à un phénomène datant de 1997 au Japon, lorsqu'un épisode de la série d'animation Pokémon a provoqué des crises d'épilepsie lors de sa première diffusion. Eric revient sur cette affaire en ouvrant sa chronique avec la fameuse scène en question que l'on vous propose d'écouter et donc de pas voir, puisque de toute façon c'est de la radio.
En 1997, lors d'une diffusion télévisuelle d'un épisode de la série Pokémon, de nombreux enfants au Japon se sont mis à avoir des crises de convulsions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le phénomène Pokémon, c'est Pokémon, diminutif du nom Pocket Monster, qui est à la base un jeu vidéo créé par Satoshi Tajiri au milieu des années 90. Des jeux qui ont battu les records de vente, hein, avec les premiers jeux vidéo s'intitulant Pokémon Rouge et Bleu en 1996. Ça continue aujourd'hui avec Pokémon Écarlate et Violet, sorti en 2022. Ce fut un tel succès que la saga Pokémon a vu naître ses jeux de cartes, hein, qui existent encore et se vendent très cher pour certaines, et les collectionneurs avertis vous le diront. Une longue série animée avec plusieurs films animés, hein, l'application Pokémon Go, mais aussi les mangas. Vous l'avez compris, c'est un véritable raz-de-marée au Japon, mais aussi en Europe, aux États-Unis et aussi en France et autres pays. On pourrait presque dire que c'est une culture mondiale, tant l'histoire donne à s'identifier personnellement. On incarne un dresseur et on voyage à travers différents mondes et régions fictives dans le but d'attraper des créatures. On compte jusqu'à maintenant 9 générations de Pokémon, soit au total 1025 espèces. Les mangas ont connu plusieurs déclinaisons et s'inspirent librement des jeux vidéo de la série animée. Comme les jeux, chaque carte narrative porte des noms et des couleurs, et sont très nombreux les éditeurs japonais. Shogakukan ont commencé par éditer les histoires Pokémon rouge et vert, puis on pouvait voir apparaître des versions assez distantes de l'œuvre originale, mais qui rencontraient également un grand succès. En France, les éditions Glénat ont traduit et publié Pokémon, Attrapez-les tous, de Mio Asada, Pikachu Adventures, de Yumi Tsukino et Pokémon La Grande Aventure. Entre la fin des années 90 et début 2000, et aussi en 2011, hein, la maison d'édition Kurokawa a repris l'édition de la série et continue de publier les mangas. Certes, revenons à notre affaire, donc l'affaire surnommé Pokémon Shock. Donc, c'est l'affaire des crises de convulsions qui a bien failli interrompre définitivement la série animée qui représentait un gros succès à cette époque. Après la diffusion de l'épisode, les parents et diffuseurs étaient très inquiets au point que la série n'était plus diffusée plusieurs mois après les premiers cas. L'épisode 38 de la saison 1, ayant pour titre le soldat virtuel, Deno Senshi Porygon en japonais, diffusé le 16 décembre 1997, raconte les aventures de Ash, donc Sacha en français pour les connaisseurs, et de ses compagnons, tous transportés dans un monde virtuel de manière accidentelle. Porygon, un Pokémon virtuel, et leur adversaire dans cet univers, sous les ordres de la Team Rocket qui cherche à capturer les Pokémon des autres équipes. Dans l'intrigue, Pikachu, le Pokémon de Ash, Sacha en français, vient à bout de Porygon. À la suite de cela, pour sortir encore d'une autre péripétie, Pikachu lance une attaque électrique. Et d'ailleurs, c'est cette scène-là qui va nous intéresser tout de suite. pour rendre réaliste cette scène importante et cohérente avec l'univers digital, puisque c'est le dénouement de l'épisode, hein, c'est pour ça que je vous disais que c'est cette scène-là, la scène clé de ce qui va se passer, les animateurs ont créé un effet alternant de couleurs très rapidement. D'après l'article de David M. Ewalt du site Forbes, la scène en question utilisait une technique d'animation japonaise appelée paka-paka, où la lumière transmise traverse un matériau translucide et photographié. Dans ce cas précis, des lumières stroboscopiques rouges et bleues vivent clignoter environ 12 fois par seconde pendant près de 6 secondes. Il y avait donc un flash bleu et rouge très rapide et assez violent et très déstabilisant. Les couleurs alternent à un rythme de 12 flashs par seconde pendant 6 secondes environ. Selon les rapports des médecins, pas moins de 2000 enfants avaient souffert de vertiges, de troubles de la vue et de convulsions après avoir regardé l'épisode. Environ 1% des téléspectateurs souffrent d'épilepsie et parmi eux, seuls 3% sont affectés par l'épilepsie photosensible. Sauf que plusieurs années après, un chercheur s'est penché sur ce cas. Benjamin Radford, le chercheur en question, qui a publié son enquête dans le Southern Medical Journal en 2001. Il indique qu'au total, environ 600 enfants avaient vraiment souffert de maux de tête, de convulsions et de problèmes de respiration le soir même. Peut-être plus un phénomène d'hystérie qu'une affaire d'épilepsie au final. Bien que cet épisode censuré par la suite contenait réellement une scène pouvant provoquer l'épilepsie chez les téléspectateurs, il indique que l'autre grosse moitié des téléspectateurs ayant eu les symptômes ont été victimes d'entraînements mutuels engendrant des réactions physiques. C'est en somme croire que par des influences extérieures qu'il va arriver quelque chose et que cela finit effectivement par se produire. Le chercheur insiste sur le fait que les symptômes sont bien réels, c'est juste qu'ils sont provoqués par l'exposition à d'autres personnes présentant les mêmes symptômes. Même si les recherches de Benjamin Radford sont crédibles, il ne faut pas négliger qu'une bonne moitié des spectateurs ont vraiment eu des crises d'épilepsie. Amis de la pop culture, en attendant la prochaine chronique, portez-vous bien.
Merci Eric. Et on repart en musique, Kevin, avant de se quitter.
Eh bien moi je vous propose d'écouter Neil Young, Hearts of Gold.
I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart.
Heart of Gold.
Et cette émission sur l'épilepsie, c'est déjà fini.
Oh non.
Si vous avez loupé le début de l'émission, si vous voulez réécouter l'émission, elle est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous propose une citation de Paul Valéry. L'amour est une brève épilepsie.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Eh bien, c'est la radio.
La radio, tout simplement. Salut à toutes et à tous.
Salut. Portez-vous bien.
Ok, let's stop.
Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute, je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort. Moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi tu sais quand ça roule, je suis le roi des déconneurs. Je blague à toute heure, même si j'ai peur de la foule. Je suis pas de bonne humeur, mais tu vois ça me fout les boules. Avant tu sais j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien, fier, beau et fort. Je garde la même devise, pour moi c'est la vie d'abord. Ce qui m'en fout, ce qui me fait mal, c'est quand on se fout de moi qu'on me croit malade mental. J'ai pris le pli et j'aimerais bien aujourd'hui, plutôt qu'à mon site, te parler d'épilepsie. C'est dans ma carte mentale, alors que tout est normal. D'un coup va savoir pourquoi j'ai les neurones qui s'emballent. Je dessine cette image, ton cerveau fait des nuages. Et contrairement à toi, les miens éclatent en orage. Souvent tu sais tout va très bien. Je suis pas non plus un bon à rien. J'ai vu le doc, celui qui prescrit mes médocs. Avec le temps c'est presque devenu mon pote. Mes promenades sont si proches des étoiles. Dans le citron, mais y'a pas de pépin qui se balade. J'aime la vie, la mienne, je l'ai pas choisie. Puis t'es pas la drique, ce qui m'arrive t'arrive aussi. Les petits, les petits, ça frappe n'importe quand. Les grands aussi, les petits. Ma palabra, ma colère. Ma palage, j'en ai marre de me taire. Et si mon corps a quelques sautes d'humeur, en alimentant ma honte, vous allez briser mon cœur. Avant tu sais tout allait bien, puis c'est venu comme ça, l'air de rien. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, pour moi c'est la vie d'abord.
Je préfère plutôt dire que je suis incroyable, tordant, homérique, excentrique, éperdu, extravagant, original, louche, décalé, fantasque, fantastique. Vertigine.
J'ai compris.
Même si parfois mon cerveau chauffe un peu.
J'ai fait de la merde, quoi.
Moi je suis comme toi, pour moi c'est la vie d'abord.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
Toute la culture que j'aime, c'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur.
Théâtre, littérature, musique, sortie.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Les RICS ne sont pas des faits divers. Elle touche nos jeunes, nos quartiers, nos territoires. RICS Zéro, le podcast à retrouver sur idfm98.fr.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous donne rendez-vous tous les samedis, dès 16h, sur IDFM Radio, avec Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture pour parler des artistes et des spectacles à l'affiche.